Chapitre 7. Comment on fait une émeute ? Un coup d'œil avait suffi aux deux hommes, et à l'instant même, tournant les talons, ils s'étaient dirigés du côté opposé, c'est-à-dire vers le cœur. Mais dès qu'ils se retournèrent et revinrent sur leurs pas, Dominique était toujours agenouillé au même endroit, mais M. Sarranti n'y était plus. Il s'en était fallu de bien peu, comme on voit, que l'infaillibilité de M. Jacqual pût être mise en doute par Gibassier. Néanmoins, son admiration pour le chef de la police n'en fut que plus grande. La scène qu'il lui avait indiquée, le tableau qu'il avait décrit, n'avait eu que la durée de l'éclair, mais scène et tableau avaient existé. « Hé, dit Carmagnol, je vois toujours notre moine, mais je ne vois plus notre homme. » Gibassier se haussa sur la pointe des pieds, darda son regard exercé dans les profondeurs de l'église et sourit. « Ah, je le vois, moi, dit-il. Où donc cela ? À notre droite, en diagonale. J'y suis. Regardez. Et je regarde. Et que voyez-vous ? Un académicien qui prend du tabac. C'est pour se réveiller, il se croit en séance. Et derrière l'académicien, que voyez-vous ? Un gamin qui vole une montre. » Ah, c'est pour dire l'heure à son vieux père, Carmagnol, et derrière le gamin, un jeune homme qui fourre un billet dans le livre de messe d'une jeune fille. Ah, soyez sûr, Carmagnol, que ce n'est pas un billet d'enterrement, et derrière ce couple fortuné, un bonhomme triste, comme si c'était lui que l'on enterra. Ah, j'ai vu cet homme-là à tous les enterrements. Il a sans doute au fond du cœur, mon cher Carmagnol, cette pensée mélancolique qu'il n'assistera pas au sien. Mais vous y êtes bientôt, mon féal, derrière le vieillard triste, que voyez-vous ? Ah, notre homme, c'est vrai, il cause avec monsieur de Lafayette. Ah, vraiment, c'est monsieur de Lafayette, dit Gibassier, avec cette espèce de respect que les gens les plus vils et les plus misérables avaient pour le noble vieillard. « Comment ? S'écria Carmagnol avec étonnement. Vous ne connaissez pas M. de Lafayette ?»« Ah, j'ai quitté Paris la veille du jour où je devais lui être présenté comme un cacique péruvien venant étudier la Constitution française. » C'est à ce moment, et comme les deux compagnons, les mains derrière le dos, d'un air bien inoffensif, se dirigeaient lentement vers le groupe, et qui se composait en général du général Lafayette, de M. de Marande, du général Pajol, de Dupont de l'Eure, et de quelques-uns de ces hommes que leur opposition désignait à la popularité universelle, c'est à ce moment, disons-nous, qu'ils avaient été signalés par Salvatore à ses amis. Gibassier n'avait rien perdu de ce qui s'était passé dans le groupe des jeunes gens. Gibassier semblait doué d'une faculté particulière à l'endroit du troisième sens. Il voyait à la fois à droite et à gauche, comme les strabites, et devant et derrière, comme les caméléons. « Je crois, mon cher Carmagnol, dit Gibassier, en montrant d'un clin d'œil à son compagnon le groupe des cinq jeunes gens, je crois que ces messieurs nous reconnaissent. Il serait donc bon de nous séparer, momentanément, bien entendu. D'ailleurs, nous n'en guetterons que mieux notre homme, et il y a un endroit où nous serons toujours sûrs de le retrouver. Ah, « vous avez raison, dit Carmagnol, on ne saurait prendre trop de précautions. Les conspirateurs sont plus malins qu'on ne croit. » « Vous avancez là une opinion bien hardie, Carmagnol, mais n'importe, il n'y a pas de mal à laisser croire ce que vous dites. Vous savez que nous n'en avons qu'un à arrêter. Mais sans doute, que ferions-nous du moine ? Il nous mettrait tout le clergé dans les bras. Et à arrêter sous le nom de Dubreuil pour le scandale causé dans l'église, pas pour autre chose. « Bien, dit Carmagnol, tirant à droite, tandis que son compagnon tirait à gauche. » Puis chacun décrivant une courbe vint se placer, Carmagnol à la droite du père et Gibassier à la gauche du fils. La messe commençait en ce moment. Elle fut dite avec onction, écoutée avec recueillement. La messe s'achevait, les jeunes gens de l'école de Châlons, qui avaient porté le cercueil jusqu'à l'église, s'approchèrent pour le reprendre et le porter jusqu'au cimetière. Mais au moment où ils se penchaient pour réunir leurs efforts et soulever le fardeau d'un mouvement unanime, un personnage de haute taille, vêtu de noir, mais sans insigne, sembla sortir de terre et, du ton d'un homme qui a le droit de commander, « Ne touchez pas à ce cercueil, messieurs, s'écria-t-il. « Et pourquoi ? Demandèrent les jeunes gens, stupéfaits. Je n'ai pas de compte à vous rendre, répondit l'homme noir, ne touchez pas au cercueil. Puis, s'adressant au commissaire des morts, vos porteurs, monsieur, demanda-t-il, où sont vos porteurs? Le commissaire des morts s'avança. Mais, dit-il, je croyais que c'était ces messieurs qui devaient porter le corps. Je ne connais pas ces messieurs, interrompit violemment l'homme noir. Je vous demande où sont vos porteurs. Faites-les venir sur le champ. On comprend la rumeur que produisit dans l'église cet étrange incident. Un bruit immense, pareil à celui qui monte des flots pendant les sinistres minutes qui précèdent la tempête, s'éleva de tous côtés. Un rugissement formidable sortait de la poitrine de la foule. L'inconnu se sentait sans doute appuyé par une force irrésistible, car il accueillit cette rumeur avec un sourire de dédain. « Des porteurs » répéta-t-il. « Non, 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 pas de porteurs !» crièrent les élèves. « Pas de porteurs !» répéta la foule. « De quel droit, continuèrent les élèves, voulez-vous nous empêcher de porter le reste de notre bienfaiteur quand nous avons reçu l'autorisation de la famille ?»« Ah, c'est faux, dit l'inconnu. La famille, au contraire, s'oppose formellement au transport du corps autrement que par le mode ordinaire. » Est-ce vrai, messieurs? Demandèrent les jeunes gens en se tournant vers les comtes Gaëtan et Alexandre de La Rochefoucauld, fils du défunt, qui s'avançaient en ce moment pour prendre place derrière le corps de leur père. Est-ce vrai, messieurs, que vous nous défendez de porter les restes de notre bienfaiteur et de notre père qui fut aussi le nôtre? Et tout cela se passait au milieu d'un tumulte effroyable à décrire. Mais quand on entendit cette interrogation, quand on vit que le comte Gaëtan s'apprêtait à y répondre, « Silence, silence, silence » cria-t-on de tous côtés. Le silence se fit comme par magie, et l'on entendit la voix grave, douce et reconnaissante à la fois du comte Gaëtan qui répondait « La famille, loin de s'y opposer, vous y a autorisé, messieurs, elle vous y autorise encore. » Ce fut à ces mots un hourra de joie qui retentit du fait à la base de l'église. Cependant, le commissaire des morts avait fait avancer les porteurs et ceux-ci avaient déjà saisi des brancards. Mais en entendant les paroles du comte Gaëtan, ils remirent le cercueil aux jeunes gens qui, le replaçant sur leurs épaules, sortirent religieusement de l'église. On traversa assez tranquillement la cour, puis on entra dans la rue Saint-Honoré. L'individu qui avait causé le scandale avait disparu comme par enchantement. On avait beau s'interroger dans tous les groupes, personne ne l'avait vu sortir, personne ne l'avait vu passer. Une fois dans la rue Saint-Honoré, le cortège se reforma. Les fils du duc de La Rochefoucauld d'abord, puis derrière eux un grand nombre de pairs de France, de députés, de personnages distingués par leur mérite personnel ou éminents par leur position, amis ou alliés du duc, prirent successivement leur place. Le duc de La Rochefoucauld était lieutenant général. Une escorte d'honneur avait été donnée à ses restes. Tout semblait donc apaisé quand, au moment où l'on s'y attendait le moins, le même individu qui avait déjà causé le scandale à l'église reparut tout à coup comme si, une seconde fois, il sortait de dessous terre. La foule, en le reconnaissant, eut un cri d'indignation, mais lui, s'avançant vers l'officier qui commandait l'escorte d'honneur, lui dit à l'oreille quelques paroles que nul n'entendit. Puis, tout haut, il lui enjoignit de prêter main forte aux agents pour empêcher les jeunes gens de porter le cercueil et de le faire déposer sur le corbillard destiné à le conduire hors de Paris. À cette prétention, renouvelée pour la seconde fois avec appel à la force armée, des cris de menace s'élevèrent de toutes parts. Au milieu des cris, on distinguait clairement ces paroles. « Non, non, n'y consentez pas. Vive la garde, à bas les mouchards, à bas le commissaire de police, à la lanterne, le commissaire de police. » Et comme accompagnement naturel de ces cris, il se produisit, de la queue à la tête de la foule, un mouvement semblable à celui des lames de la marée. La dernière vague arriva si près du commissaire qu'elle le força à reculer. Il se retourna du côté d'où partaient les cris et, jetant un regard de menace à toute cette foule, « Monsieur, dit-il à l'officier, une seconde fois, je vous somme de me prêter main forte. » L'officier jeta un coup d'œil sur ces hommes, il les vit fermes et sombres. Ils obéiraient, quel que fût l'ordre donné. De nouveaux cris s'élevèrent. « Vive la garde, à bas les mouchards !»« Monsieur, » répéta violemment l'homme en noir à l'officier, « une troisième et dernière fois, je vous somme de me prêter main forte. J'ai reçu des ordres formels, et malheur à vous si vous m'empêchez de les exécuter. » L'officier, vaincu par le ton impérieux du commissaire et par la forme menaçante de la sommation, l'officier donna un ordre à demi-voix et, en un instant, les baïonnettes rayonnèrent au bout des fusils. Ce mouvement sembla pousser la foule au dernier paroxysme de la colère. Des cris sinistres, des cris de vengeance et de mort retentirent de tous les côtés. « À bas la garde, mort au commissaire, à bas le ministère, à mort monsieur de Corbière, à la lanterne les jésuites, vive la liberté de la presse !» Les soldats s'avancèrent pour s'emparer du cercueil. Maintenant, si le lecteur veut passer de l'ensemble au détail, et de la foule à quelques-uns des individus qu'il a composés, il jettera, guidé par nous, un regard sur l'attitude des personnages de notre livre, au moment où le cercueil, porté par les élèves de l'école de Châlons, descendait les marches de l'église de l'Assomption et s'avançait dans la rue Saint-Honoré. M. Saranty et l'abbé Dominique, suivis l'un de Gibassier et l'autre de Carmagnole, s'étaient, au sortir de l'église, rapprochés sans affectation et sans paraître se connaître le moins du monde, et étaient allés se placer à l'extrémité de la rue de Mondovie, c'est-à-dire près de la place de l'Orangerie et en face du jardin des Tuileries. M. de Marante et ses amis étaient groupés dans la rue du Mont-Abord, attendant que le cortège se mît en marche. Salvatore et nos quatre jeunes gens s'étaient arrêtés dans la rue Saint-Honoré, à l'angle de la rue Neuve de Luxembourg. Dans le mouvement que la foule avait opéré, les rangs s'étaient resserrés, et les jeunes gens se trouvaient à une vingtaine de pas de la grille qui forme l'enceinte de l'église de l'Assomption. Ils se retournèrent en entendant pousser ces cris par lesquels la population indignée accueillait au milieu d'un service funèbre l'intervention de la force armée. Mais parmi tous ceux qui manifestaient ainsi leur indignation, les plus indignés étaient ces hommes aux figures basses et aux regards louches qui paraissaient semés dans la foule avec une habile profusion. Jean-Robert et Pétrus se détournèrent avec dégoût. Leur désir en ce moment eût été de se tirer de cette presse au-dessus de laquelle on sentait planer quelque chose de sinistre et de menaçant. Mais ils étaient pris, il n'y avait pas moyen de bouger, et tous leurs efforts, se tournant vers le sentiment de la conservation personnelle, devaient se borner à ne pas être étouffés. Salvatore, au reste, l'homme étrange, qui semblait aussi familier avec les mystères de l'aristocratie qu'avec les arcanes de la police, Salvatore connaissait la plupart de ces hommes, non seulement de vue, mais, chose singulière, même de nom. Et ces noms, c'était, pour la curiosité de Jean-Robert, un poète aux instincts élevés, des jalons placés sur un chemin inconnu, descendant vers les cercles infernaux visités par Dante. Ces hommes, c'étaient Longavoine, Maldaplomb, Brin d'Acier, Maillochon, toute cette escouade, enfin, que nos lecteurs ont vu assiéger la petite maison de la rue des Postes, dans laquelle l'un d'entre eux, le pauvre Vol-au-Vent, avait fait un saut si périlleux et si mal réussi. C'étaient diversement groupés et correspondant de l'œil et du geste avec Salvatore, qui, par ces deux moyens mimiques, leur recommandait la plus grande prudence. C'était Croc-en-Jambe et son compère la Giblotte, parfaitement raccommodés, le dernier continuant de révéler sa présence par cette pénétrante odeur de valériane qui affectait si désagréablement l'odorat de Ludovic dans le cabaret du coin de la rue Aubryl-Boucher, où a commencé cette longue histoire que nous sommes en train de raconter à nos lecteurs. C'était Fafiou et le divin Copernic, réunis par l'intérêt que Copernic avait de ne pas se brouiller avec Fafiou, plus encore que par celui qu'avait Fafiou de ne pas se brouiller avec Copernic. Copernic avait donc pardonné à Fafiou ce geste inconsidéré que le pitre avait mis sur le compte d'un mouvement nerveux dont il n'avait pas été le maître. Seulement, Copernic avait fait jurer à Fafiou que la chose ne lui arriverait plus, serment que Fafiou n'avait fait qu'avec cette restriction mentale à l'aide de laquelle les jésuites prétendent qu'on peut tout jurer sans être obligé de rien tenir. À 10 pas des deux artistes, et heureusement séparés d'eux par une masse compacte, était Jean Taureau, tenant sous son bras, comme un gendarme tient son prisonnier, comme Gibassier tenait son agent, tenant sous son bras cette grande fille blonde, cette Vénus des Halles, au corps onduleux comme celui d'un serpent, et que l'on appelait Fifine. Nous disons « heureusement », car Jean Taureau avait flairé Fafiou, comme Ludovic avait flairé la gibelotte, quoique nous n'accusions pas le pauvre garçon d'exhaler la même odeur. Et l'on sait quelle haine profonde, quelle exécration invétérée professait le robuste charpentier pour son frêle rival. Non loin de là étaient les deux compagnons qui avaient livré bataille aux deux jeunes gens dans le cabaret. Sac à plâtre, ce maçon qui, dans un incendie, avait jeté du second étage son enfant et sa femme dans les bras de cet Hercule Farnèse ayant nom Jean Taureau, et qui avait fini par s'y jeter lui-même. Sac à plâtre, blanc comme la substance qu'il avait l'habitude de gâcher, et qui lui avait valu ce sobriquet, sac à plâtre était au bras d'un géant, aussi noir que lui, sac à plâtre était blanc. Ce géant, qui semblait être le titan époux de la nuit, était ce charbonnier démesuré que Jean Taureau, dans un jour de liesse et de pédantisme, avait nommé Toussaint l'Ouverture. C'était en outre tous ces personnages vêtus de deuil que nous avons vus stationner dans la cour de la préfecture, attendant les derniers ordres de M. Jacqual et le signal du départ. Au moment où les soldats s'approchèrent du cercueil, baïonnette en avant, une vingtaine de personnes, cédant à un premier mouvement de générosité, se jetèrent entre eux et les élèves de l'école de Châlons qui portaient le corps. L'officier, interpellé s'il aurait le courage de se servir des baïonnettes de ses soldats contre des jeunes gens dont le seul crime était de rendre hommage à leur bienfaiteur, l'officier répondit que l'ordre qu'il venait de recevoir du commissaire de police était formel et qu'il ne se souciait pas d'être destitué. Seulement, lui, à son tour, et une dernière fois, somma ceux qui voulaient l'empêcher d'accomplir son devoir de se retirer, et s'adressant aux porteurs, protégés par cette muraille vivante, il leur ordonna de poser le cercueil à terre. « N'en faites rien, n'obéissez pas, cria-t-on de tous côtés, nous sommes là pour vous soutenir. » Et les jeunes gens, en effet, par leurs paroles fermes et leur attitude résolue, semblaient décidés à tout risquer plutôt que d'obéir. L'officier donna l'ordre à ses hommes de continuer le mouvement. Les baïonnettes, qui s'étaient relevées un instant, s'abaissèrent de nouveau. « Mort au commissaire! Mort à l'officier !» hurla la foule. L'homme noir leva le bras. Le sifflement d'un casse-tête se fit entendre et un homme, frappé à la tempe, tomba, baigné dans son sang. Nous n'avions point à cette époque passé à travers les terribles émeutes des 5 et 6 juin, des 13 et 14 avril, et c'était encore quelque chose qu'un homme assommé. « Au meurtre !» cria la foule, « au meurtre !» Comme s'ils n'eussent attendu que ce cri, 200 ou 300 agents sortirent de dessous leur redingote un casse-tête pareil à celui dont on avait vu les faits. La guerre était déclarée. Ceux qui avaient des bâtons les levèrent, ceux qui avaient des couteaux les sortirent de leurs poches. L'émeute, bien chauffée, comme on dit en termes d'art, faisait explosion. Jean Taureau, l'homme au courage sanguin, c'est-à-dire l'homme du premier mouvement, Jean Taureau oublia les recommandations muettes de Salvatore. « Ah !» dit-il en lâchant le bras de Fifine et en crachant dans ses mains, « je crois que nous allons en découdre. » Et comme pour essayer sa force, il prit par les flancs le premier agent de police qui se trouvait à sa portée et s'apprêta à le jeter n'importe où. « À moi, à l'aide, au secours, les amis !» cria l'agent d'une voix qui s'éteignait de plus en plus sous la pression des mains de fer de Jean Taureau. Brindacier entendit ce cri de détresse, et glissant comme une couleuvre à travers la foule, il s'approcha par derrière, et il levait déjà sur Jean Taureau un bâton court et plombé, quand Sac de Plâtre se précipita entre le mouchard et le charpentier et saisit le bâton, tandis que le chiffonnier, arrivé près du groupe et voulant sans doute justifier son nom, passa la jambe à Brindacier et le fit tomber à la renverse. À partir de ce moment, ce fut une mêlée épouvantable, et l'on commença à entendre les cris aigus des femmes mêlées à la foule. L'agent saisi au corps par Jean Taureau, comme hanté par Hercule, avait lâché son casse-tête qui avait roulé aux pieds de Fifine. Celle-ci l'avait ramassé et, la manche retroussée jusqu'au coude, ses cheveux blonds au vent, elle frappait à droite et à gauche sur tout ce qui tentait de s'approcher d'elle. Deux ou trois coups, virilement assénés par la bradamante, concentrèrent sur elle l'attention de deux ou trois hommes de la police, et elle allait être infailliblement assommée quand Copernic et Fafiou s'ouvrirent un passage jusqu'à elle. La vue de Fafiou s'approchant de Fifine fit prendre une violente résolution à Jean Taureau. Il lança l'agent au beau milieu de la foule et se retournant vers le pitre, « Édin, dit-il !» et, allongeant le bras, il saisit Fafiou au collet. Mais à peine la main avait-elle touché l'habit que Jean Taureau recevait un coup de bâton plombé qui lui faisait lâcher prise. Il reconnut la main qu'il avait frappée. « Fifine, s'écria-t-il, écumant de colère, mais tu veux donc que je t'extermine ? Toi, grand lâche, dit-elle, ose un peu lever la main sur moi. Non, pas sur toi, mais sur lui. « Voyez ce chenapan-là, dit-elle à sac de plate et à croque-en-jambe, est-ce qu'il ne veut pas étrangler un homme qui vient de me sauver la vie ?» Jean Taureau poussa un soupir qui ressemblait à un rugissement. Et puis à Fafiou, « Va-t'en, dit-il, et si tu tiens à ton existence, présente-toi le moins possible sur mon chemin. » Pendant que ces choses se passaient à droite dans le groupe de Jean Taureau et de ses camarades habituels de cabaret, voyons ce qui se passait à gauche dans le groupe de Salvatore et de nos quatre jeunes gens. Salvatore avait recommandé, comme nous l'avons vu, à Justin, à Pétrus, à Jean-Robert et à Ludovic, la plus stricte neutralité. Et cependant, Justin, le plus calme de tous en apparence, venait de contrevenir à cette recommandation. Disons comment ils étaient placés. Justin se trouvait à la gauche de Salvatore, les trois autres jeunes gens étaient derrière lui. Et tout à coup, Justin entendit à trois pas de lui un cri douloureux, puis une voix d'enfant qui criait « À moi, monsieur Justin, à moi !» Interpellé par son nom, Justin se jeta en avant et aperçut Babolin renversé à terre et crossé à grands coups de pied par un agent. D'un mouvement rapide comme la pensée, il repoussa violemment l'agent et se baissa pour aider Babolin à se remettre sur ses pieds. Mais au moment où il s'inclinait, Salvatore vit le casse-tête d'un agent se lever au-dessus de lui. Il s'élança à son tour, la main en avant, pour faire de son bras un rempart à Justin. Mais, à son grand étonnement, le casse-tête resta levé, sans s'abattre, tandis qu'une voix affectueuse lui disait « Eh, bonjour, cher monsieur Salvatore, que je suis donc aise de vous rencontrer !» Cette voix c'était celle de M. Jacal.